petit peu de ménage avant de commencer. Voilà, en ce début d'année 2025, il nous a paru bon de nous remémorer ce en quoi nous croyons en tant qu'Église, quelles sont nos doctrines et articles de foi fondamentaux. C'est pourquoi nous lançons une série de prédications sur ce qu'on appelle couramment le credo, qui est une sorte de confession de foi générale de tous les chrétiens, qui est également le thème de cette année, qui est cette année le thème de la prière pour l'unité des chrétiens. Au cours des siècles, plusieurs versions de ce credo ont été élaborées, et nous avons retenu celle du symbole de Nicée-Constantinople, reconnu conforme aux données bibliques par toutes les traditions chrétiennes. Et elle définit cette version, plus particulièrement la doctrine de la Trinité, même si cette dernière n'y est pas nommément mentionnée. Je l'affiche ici, nous n'allons pas le lire entièrement, parce que nous allons, dans cette série de prédications, développer article par article. Mais ce que nous constatons, et c'est souligné ici, c'est que chaque article commence par ces mots « nous croyons ». Ça apparaît ici de manière soulignée, ou pour le tout dernier article, « nous confessons ». Il est bon de préciser que si nous reconnaissons dans ces lignes des expressions bibliques, ce texte ne se substitue en rien au texte biblique qui seul fait autorité. On pourrait dire que chaque article de foi n'est en quelque sorte que le titre de la doctrine qui le sous-tend et qui a besoin d'être développé. C'est ce que nous allons tenter de faire ici, dans cette série de prédications, très modestement, très partiellement. Je m'appuierai aujourd'hui beaucoup sur le livre que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, de Théologie pour tous, pour une foi réfléchie. J'en reprendrai même textuellement certains points. Et donc aujourd'hui, nous abordons le premier article de ce credo. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Penchons-nous sur cette expression « un seul Dieu ». Un seul Dieu qui nous renvoie, évidemment, je pense, au premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi » ou « d'autre Dieu devant moi » que nous trouvons dans le livre de l'Exode. Donc, ce commandement, le premier, qui est précédé d'une présentation, sorte peut-être de commandement zéro, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir » du pays d'Égypte, du pays où tu étais esclave. L'Éternel, c'est un mot que nous employons, qui est la traduction dans beaucoup de nos Bibles, d'un mot hébreu, Yahvé, qui apparaît sous forme de quatre lettres, YHWH. C'est certainement pas comme ça que ça se prononce, mais en tout cas, ce sont les quatre lettres hébreues qui apparaissent sur cette diapositive et qui signifient « je suis ». C'est le nom de Dieu, un nom qui se confond avec ce qu'il est. Nous, humains, nous donnons un nom à nos enfants parce qu'ils viennent après nous, mais Dieu, lui, est de toute éternité. Personne ne l'a créé. Personne ne l'a engendré, personne ne l'a donc nommé. Il est le « je suis » qui préexistait avant toute autre chose, et c'est pour cela que son nom se confond avec ce qu'il est. Interpellé par Dieu lors de l'épisode du buisson ardent, Moïse dit à Dieu, et je vais lire dans le livre de l'Exode, chapitre 3, à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore aux Israélites, à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. » Pardon, je n'ai pas terminé de lire le verset 15. « Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Et donc, ce nom, c'est Yahvé, je suis. Il est aussi précisé un seul Dieu. Dans le contexte polythéiste dans lequel Dieu s'est révélé à Moïse, cette notion d'exclusivité est d'importance. Et nous parlons bien d'exclusivité d'être, d'essence, d'existence, et non seulement d'adoration. Les gens étaient habitués à cette époque à vénérer toutes sortes de dieux, privilégiant les uns et négligeant les autres selon leur culture, leur histoire, leur tradition, leurs préférences personnelles et même parfois leurs intérêts. Dans leur esprit, bien qu'étant en concurrence, ces dieux composaient les uns avec les autres, s'alliaient ou s'opposaient entre eux, tout comme les hommes dont ils n'étaient finalement qu'à leur propre image. Adorer un dieu n'excluait pas forcément toute idée d'existence d'autres divinités. Et c'est ce qui tranche avec le dieu de la Bible. Il n'est pas le dieu que nous avons choisi d'adorer. Il est le seul dieu existant. Conformément aux dieux qui sont en fait des constructions de l'esprit des hommes, ce dieu-là n'a pas besoin des hommes pour exister. C'est ce que dit Paul aux Athéniens en acte 17. Il n'a même pas besoin d'être adoré. C'est nous qui avons besoin de lui parce qu'il a implanté, nous dit l'Ecclésiaste, en nous le sens de l'éternité. Dans sa parole, par la bouche de Moïse, Samuel, Ésaïe, Osée, Joël, Malachie, Paul et même d'un spécialiste de la loi venu questionner Jésus, Dieu l'a déclaré, « C'est moi qui suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Nous pourrions peut-être nous illusionner aujourd'hui sur le fait que, de notre temps, les idoles sont révolues, que nous ne courons plus trop le risque de nous fourvoyer avec de faux dieux. Alors d'une part, j'ai constaté assez dernièrement que ceci est de moins en moins vrai. Nous voyons ressurgir, ça et là, des divinités antiques ou exotiques de toutes sortes. Et même si cela apparaît souvent comme décoratif ou folklorique, là, il y a une tendance peut-être en ce sens aujourd'hui. Mais de manière beaucoup plus subtile, sans doute, le chrétien peut cultiver dans son cœur quelque idole bien à lui, souvent à l'image de son époque. Au matérialisme du XXe siècle a succédé l'individualisme. Aujourd'hui, on parle plutôt d'épanouissement personnel. L'homme penche assez naturellement à faire de lui-même ou autour de lui-même son propre Dieu. Un seul Dieu, donc, néanmoins, un Dieu qui existe en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité, mot signifiant tri-unité. Bien que de nombreuses analogies aient été inventées pour aider à comprendre partiellement ce que signifie la Trinité, aucune explication n'est entièrement satisfaisante au risque de la simplifier et de la dénaturer. Mais je crois que c'est tout simplement parce que mon cerveau, et sans préjuger de vos capacités, le vôtre probablement, n'est tout simplement pas en mesure d'appréhender cette notion de Trinité. Je crois l'avoir déjà dit ici, si vous pensez avoir tout compris de la Trinité, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Mais renoncer à à l'expliquer et à la comprendre ne nous dispense pas de l'énoncer, car c'est bel et bien une réalité biblique, et c'est ainsi que l'exprime notre confession de foi. Oula, il y a quelque chose qui a sauté là. Ah oui, non, c'est là, voilà. Nous adorons Dieu, lui seul, unique en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est donc la confession de foi de notre Église, de notre fédération. Mais plus important peut-être, qu'est-ce que ça change pour nous ? Ou plutôt, qu'est-ce que ça changerait si la Trinité n'était pas une réalité ? Sans la Trinité, pas de Dieu d'amour. Or, Dieu est amour. Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait une relation. Dieu aurait-il découvert l'amour seulement au moment où il nous a créés ? Nous aurait-il créés pour satisfaire un besoin d'amour, parce qu'il n'aurait personne à qui l'exprimer, dont il aurait été privé ? La Trinité est caractérisée par un amour infini qui existe, qui préexistait entre les trois personnes. Sans la Trinité non plus, pas de vie en Dieu. Quand, au jardin d'Éden, Dieu déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est son image qu'il est en train d'implanter en l'homme. Dieu n'a jamais été seul et il n'a pas voulu que l'homme soit seul puisque lui ne l'a été. Pour reprendre une parole de Paul, il a voulu que l'homme ait la vie, le mouvement et l'être. Sans la Trinité, pas de mouvement, pas d'être, pas de vie. Et enfin, sans la Trinité, pas de communion non plus. Jean le dit, c'est avec le Père et avec le Fils que nous sommes en communion. Et Paul le déclare aux Galates, « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». La communion que nous avons avec Dieu, Père, Fils et Esprit, est une extension de celle qui réside entre ces trois personnes. Nous ne pouvons pas donc appréhender la notion de Trinité, mais nous pouvons comprendre ses effets sur nous. Dieu s'approche de nous et nous invite à entrer dans un amour, un culte, une adoration, une communion qui existe déjà en lui. Quand nous louons le Dieu trinitaire, comme lors de la louange que nous lui avons adressée au début de ce culte, et j'ai été frappé de ce que vraiment les trois personnes de la Trinité ont été l'objet de nos louanges, Père, Fils, Saint-Esprit, ce matin. Nous entrons dans une louange et une adoration qui existe de toute éternité en Dieu, au sein même de la Trinité. Et en ce sens, nous étions tout à l'heure co-louangeurs de Dieu avec Dieu. La seconde caractéristique abordée dans ce premier article du symbole de Nicée-Constantinople évoque la notion de père. Le mot père renvoie à la paternité et peut-être avec la montée du féminisme aussi à la question du sexe de Dieu. Et il semble assez clair que nous sommes ici d'accord pour dire que la catégorisation sexuelle n'est pas appropriée en ce qui concerne Dieu. Est-ce que ça signifie pour autant que nous pourrions nous adresser à Dieu en l'appelant indifféremment notre père ou notre mère ? Car c'est vrai, lorsque Dieu crée l'homme à son image, il le crée homme et femme. Certaines métaphores ou comparaisons renvoie dans la Bible à des images féminines. Et là, je pense à l'image de la poule rassemblant ses poussins dont parle Jésus pour évoquer le souhait de Dieu de rassembler ses enfants. Mais dans la société israélite, l'image masculine du père ou du mari évoquait plus particulièrement l'autorité et la protection, tandis que celle de la mère renvoyait plutôt à la compassion. Et lorsque Dieu crée, il pose en face de lui une réalité qui n'est pas de même nature que lui. La création n'est ni un prolongement ni une émanation de lui-même. La paternité y image, évoque une image de distance, de séparation, ou plus exactement un rapport de vis-à-vis entre Dieu et sa création. L'image maternelle, elle dit autre chose. Une femme porte l'enfant qu'elle met au monde dans une sorte de fusion originelle, de continuité entre la mère et l'enfant. Parler de Dieu à l'aide de l'image de la mère pourrait laisser suggérer une certaine continuité entre Dieu et le monde, et ce qui est plutôt le propre d'une hérésie, d'une doctrine qui est celle du panthéisme dans lequel Dieu et le monde se confondraient. En outre, les nations païennes recouraient assez abondamment à l'image des déesses-mères associées au culte de la fécondité. La Genèse nous expose comment Dieu a placé l'être humain au centre de la création pour faire alliance avec lui et non à chercher à se fondre à lui. Et donc cette alliance indique un rapport de communion, de vis-à-vis et non de fusion. Alors bien évidemment, l'image du Père renvoie également à d'autres qualités paternelles de Dieu, l'amour, la bienveillance, la patience, j'en passe, tout comme on trouve en lui des qualités maternelles de compassion, d'amour, de tendresse, de consolation. Mais le mot Père renvoie ici avant tout à la notion de création, et c'est d'ailleurs à cela qu'il est associé dans le Credo, tout comme dans la Bible, un Père créateur. Peut-être cette pensée de Père créateur peut-elle aider celles et ceux dont le vécu avec leur propre Père écorne l'image d'un Dieu protecteur, aimant, patient et bienveillant. Celles et ceux pour qui l'appeler Père reste difficile et se sentent en décalage avec l'image paternelle issue de leur enfance. Il n'en demeure pas moins que nous devons tous notre vie à un Père, tout comme nous la devons à notre Père qui est aux cieux, qui lui en plus fait grâce et rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, ainsi que le dit un psaume que nous aimons répéter. Peut-être cette pensée peut-elle également aider les papas qui ne se sentent pas à la hauteur de leur statut de père, dans la paternité que Dieu leur a déléguée auprès de leurs enfants. Ou ceux qui, comme moi, regardant en arrière, ne peuvent que regretter d'avoir été si imparfaitement incarnés, d'avoir si parfaitement incarné l'image de Dieu notre Père. La présence de Dieu dans la vie des parents, dans la vie des papas, aussi imparfaite que soit cette vie, constitue le meilleur panneau indicateur d'un Père, lui, vraiment parfait, le meilleur héritage à transmettre à nos enfants. Et nous abordons maintenant la dernière partie de notre sujet, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. La Bible annonce, dès le premier verset, que Dieu est le Créateur du ciel et de la terre. Nous n'avons pas, au tout début de la Bible, une présentation en bonne et due forme. Dieu s'appelle comme ceci, il est comme cela, voici son but, etc. Non, nous avons « Au commencement, Dieu créa ». C'est les premières paroles de la Bible. Et évidemment, ce ne sont pas les seuls qui le disent. L'affirmation d'un Dieu créateur parcourt toute la Bible dans les psaumes, les proverbes, les livres historiques, les prophètes, les évangiles, les actes, les épîtres, et même dans l'Apocalypse. Alors si un large débat création-évolution a cours parmi les chrétiens sur peut-être la forme, les modalités de l'acte de création, on peut néanmoins affirmer que tout chrétien est créationniste au sens où il croit en un Dieu créateur. Et c'est en tout cas ce qu'affirme le Credo, de même que notre confession de foi d'ailleurs. Le chrétien ne croit pas en la création, mais en celui qui a créé toute chose par la seule puissance de sa parole. Je cite le théologien Henri Blocher, « Confesser la création, c'est croire que le Dieu trinitaire a librement produit tous les êtres autres que lui-même, selon la totalité de leur être, radicalement distincte et dépendant de lui. Nous sommes en face d'un Dieu à qui il a suffi de parler pour qu'une chose existe. C'est fort, hein ? Un Dieu qui existait avant que tout ceci n'existe et qui subsistera quand tout ceci aura disparu. Dans ce monde, nous sommes ses créatures, distinctes de lui, mais entièrement, absolument et perpétuellement dépendantes de lui. Créées à son image, nous le représentons sur cette terre en portant son effigie. Et là, parcourant sa parole, marchant dans les pas de son fils Jésus, nous découvrons alors qui il est, quels sont ses attributs et son but pour le monde. Il est un Dieu qui se laisse trouver. Nous avons été créés pour profiter d'une relation de communion avec lui, une communion que lui-même vit de toute éternité au sein de la Trinité. Il est question de ciel et de terre, de choses visibles et invisibles. Pour ce qui est de la terre et des choses visibles, ça me semble assez clair. Il s'agit du monde matériel dans lequel nous évoluons au quotidien. Bien sûr, le ciel physique que nous voyons ici en fait partie, qu'il s'agisse de l'atmosphère terrestre, de l'espace interstellaire, des planètes, des étoiles, des galaxies, etc. Mais déjà, nous comprenons qu'il y a un invisible dans le monde visible. Je m'explique. Donc, nombre de choses matérielles, visibles, matérielles, restent néanmoins invisibles à nos yeux parce que trop loin, comme certaines étoiles ou galaxies, trop petites pour être visibles à nos yeux, ou auxquelles nos yeux sont insensibles, comme l'infrarouge ou l'ultraviolet, hein, des lumières que l'œil ne perçoit pas. Mais moyennant des instruments adaptés, ces choses deviennent visibles, ou en tout cas leurs effets deviennent visibles. Et c'est ainsi que des planètes ont été découvertes avant même que leurs images n'apparaissent sur l'écran des télescopes, à cause des effets qu'elles produisent, qui avaient été constatés sur leur Soleil et sur les planètes environnantes. Et c'est le cas au sein même de notre système solaire. Neptune avait été en quelque sorte calculée avant même d'être vue, à cause des effets qu'elle manifestait sur les autres planètes, sur d'autres planètes du système solaire. Les scientifiques aujourd'hui cherchent à expliquer la présence d'une matière dont les effets se manifestent dans l'univers tout entier, dont la masse serait même 6 fois supérieure à celle de la masse visible, mais qui reste à ce jour indétectable dans l'état actuel de nos moyens. Le ciel dont il est question ici et dans la Bible n'est pas le monde matériel, et dans ce sens est et restera invisible à l'œil nu comme aux instruments humains, aussi sophistiqués soient-ils. Et nous parlons là du monde spirituel, de la demeure de Dieu. Les auteurs bibliques en parlent souvent à l'aide d'une expression « les cieux des cieux ». Eh bien, même ce monde-là a été créé par Dieu. C'est un monde qui est inaccessible à l'homme de son vivant. Et ceci est rendu d'une manière toute particulière dans des expressions comme « l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre ». C'est ainsi que Gédéon, dans le livre des Juges, s'est cru à un moment à l'article de la mort, à l'apparition de l'ange de l'Éternel. Et même lorsque Dieu franchit la séparation entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, il ne montre jamais sa face. Ses apparitions ne sont que des images de sa personne. Par exemple, lorsque Dieu se présente à Paul, c'est sous la forme d'une lumière aveuglante. C'est aussi sous la forme d'un feu descendu du ciel que la gloire de Dieu remplit le temple de Salomon. C'est encore sous la forme d'une nuée qu'il apparaît à Moïse sur le mont Sinaï. Mais comme il existe, nous avons parlé précédemment, un visible invisible, il existe aussi un invisible visible. Visible par ses effets, ainsi que le montrent les trois exemples que je viens de citer, visible par le vouloir et le faire que Dieu produit en nous, selon son projet bienveillant, par l'action qu'il exerce dans le cœur des hommes pour les inviter à le rencontrer, par les dons que son esprit distribue à chacun dans son Église selon sa volonté, par l'appel qu'il exerce sur tel ou tel en vue d'une mission ou d'un ministère spécifique, par la protection qu'il exerce sur son Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Et je passe sans doute un certain nombre d'exemples qui rendent l'invisible visible à notre regard spirituel. Pour ceux qui ont accompagné Jésus durant son ministère, les effets de l'invisible sont devenus particulièrement visibles à leurs yeux. C'est ainsi que c'est ce qu'ils nous ont transmis, et nous, nous y croyons à notre tour, par la foi et sans l'avoir vu. Peut-être aurez-vous remarqué que j'ai fait l'impasse sur une expression, le qualificatif tout-puissant, Père tout-puissant. Et c'est par cette dernière considération que nous terminerons cette première étape d'exploration du credo. Cette expression, Père tout-puissant, cette expression tout-puissant est la traduction d'un mot hébreu qui signifie tout-puissant, Shaddai, dans l'Ancien Testament, et en grec dans le Nouveau Testament, principalement dans l'Apocalypse, sous le nom de Pantokrator. Je ne sais pas si je prononce correctement, je prononce tel que je le vois écrit. Il s'agit d'un qualificatif, et à ce titre, il est souvent associé au mot « El », qui lui signifie Dieu. Donc, elle, qui est associée aussi à d'autres qualificatifs, El Olam, et El Shaddai est par exemple le titre d'un chant qui fait partie de notre répertoire, qui signifie Dieu Tout-Puissant. Ce qualificatif, Shaddai, ne qualifie pas seulement la puissance de Dieu d'une manière quantitative, mais aussi d'une manière universelle. La puissance de Dieu est infinie et en tout. Dans quelque domaine que ce soit, et à quelque intensité que ce soit, Dieu est sans limite. Sa seule limite est celle de sa volonté. Rien n'est impossible à Dieu, dit l'ange Gabriel à Marie. Dieu peut intervenir en transcendant les lois de notre monde, comme il l'a fait à cette occasion. Il n'est pas limité par les lois qu'il a établies. C'est pourquoi nous pouvons nous attendre de sa part à des miracles. Nous pouvons attendre de lui qu'il agisse infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Parce qu'il est tout-puissant, l'affirmation biblique de sa souveraineté sur le monde et sur notre vie est crédible. Rien de ce qui arrive ne le prend par surprise. Aucune de nos situations le dépasse. Il a le pouvoir de réaliser tout ce qui est dans sa volonté. Il nous a communiqué sa volonté pour les hommes et elle ne change pas. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une vérité au sujet de laquelle nous déclarons, nous croyons. La vérité sur nous-mêmes, la vérité sur Dieu, la vérité en son Fils Jésus, la vérité par le Saint-Esprit, la vérité pour l'édification de l'Église, la vérité sur la résurrection et la vie éternelle. Nous croyons.